nous allons nous intéresser à des personnages dont nous parle l'histoire biblique et qui particulièrement sont considérés comme des fidèles, ont manifesté une remarquable fidélité, non pas sans que des accidents aient marqué pour certains le cours de leur vie, cependant ils ont été jugés fidèles. Le premier que nous allons prendre, c'est Abraham. Abraham. Alors, nous lirons dans Néhémie, au chapitre 9, les versets 7 et 8. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Guirgasiens. Et tu as tenu parole, car tu es juste. Amen. Donc, il s'agit là d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Nous savons, bien sûr, que Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est là qu'il porte d'abord son regard, je dis d'abord, parce qu'il le porte aussi sur notre marche, la façon dont nous nous comportons au cours, au fil des jours. Mais essentiellement et tout d'abord, le regard de Dieu se porte sur les cœurs. Les reins, ça veut dire sur la nature de l'effort que nous produisons lorsque le cœur est lui-même disposé à la foi. Alors là, nous allons voir un petit peu les textes qui nous disent que précisément Dieu sonde les cœurs. Nous allons prendre dans 1 Chronique, chapitre 28, et verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Voilà, c'est David qui instruit ainsi son fils. Connais le Dieu de ton père, connais. Nous n'allons pas nous arrêter sur ce terme qui est chargé de sens. Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Un cœur dévoué, une âme bien disposée. Parce que, dit David, l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins, toutes les pensées. Les desseins, les pensées, bien avant que ces pensées n'aient pu déterminer l'action, le Seigneur les a vues. Et dans l'examen qu'il fait du dessein, déjà dans le cœur, dans l'œuf en somme, il voit si l'action sera bonne ou sera mauvaise. Le Seigneur voit la pensée qui se forme, le dessein qui s'élabore là dans le cœur, et le Seigneur dit avec ça, il va certainement aller de travers, il va certainement faire du dégât, du mauvais travail. Par contre, s'il voit que le dessein est pur, qu'il se présente dans la bonne fidélité, alors Dieu dit, ça va être parfait. Cet homme-là va m'honorer. Dans l'action qui germe actuellement dans son cœur, eh bien, il n'est pas douteux qu'il va m'honorer. Vous voyez, n'est-ce pas? Et pour nous, ça n'a pas changé, ça. Et depuis Salomon, ça n'a pas changé. Et nous devrions, nous, bien penser à cela, que dans nos cœurs, le Seigneur voit. Attention, devrions-nous nous dire à chacun que dans mon cœur ne s'élaborent pas des pensées, des desseins mal établis, conçus dans le mélange, conçus par du raisonnement, conçus par une préférence peut-être charnelle qui s'est introduite là. Attention, ce dessein va donner un résultat catastrophique. Et Dieu le sait, Dieu le voit avant. Alors essayons de le voir, nous aussi, comme Dieu. C'est pourquoi le psalmiste dira, « Seigneur, sonde mon cœur et mes reins. J'ai besoin que tu sondes mon cœur et mes reins. » Dans 1 Samuel 16, 7, nous avons « L'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ah oui, nous avons ce défaut, nous, oh combien n'est-il pas encore malheureusement présent ce défaut? Nous regardons à ce qui frappe les yeux. Nous jugeons par l'extérieur. Et ça, alors il faudrait tout de même apprendre par la foi et par la sagesse, par la saine raison, il faudrait apprendre à s'en corriger de ça. L'Éternel qu'on ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde, lui, au cœur. Retenons cette bonne leçon. Je ne vais pas pousser la chose plus loin, il y a d'autres passages, bien sûr, vous voyez, l'Écriture est revenue souvent sur cette question. Il y a le psaume 139, 1, 6, 23, 24, il y a le psaume 7, il y a Jérémie 17, etc. Mais je ne vais pas vous lire tout ça. Donc, Dieu... Apprenons-nous par Jérémie, Dieu avait choisi Abraham. Dieu voyait d'avance ce qu'était son cœur et ses dispositions et ce qu'elles allaient donner au cours des expériences de la vie et sous les directions de Dieu. Expérience de la vie, n'est-ce pas? Ça, c'est le déroulement de l'action, mais il y a au-dessus les directions de Dieu. Alors, est-ce que le personnage va dérouler son action parallèlement aux directions de Dieu, ou bien les directions de Dieu vont-ils aller dans ce sens, et puis les actions dans l'autre, hein, dans un sens opposé? Paul mentionne la prescience de Dieu, nous l'avons vu, l'avons étudié cela, la prescience de Dieu comme base de l'élection. Pardon, c'est pas Paul, c'est Pierre. C'est Pierre qui dit cela, non? Hein? 1 Pierre, chapitre 1 et verset 2. Chapitre 1, verset... Alors, nous lisons au début... Pierre, oui, non pas Jacques... Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Donc... Vous voyez, ils sont élus selon la préscience de Dieu. L'élection, donc, est la base, la cause, la chose prise en considération, la prescience de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu voit d'avance, c'est là-bas, c'est prise en considération pour l'élection qui est la manifestation de la volonté préalable de Dieu. Paul note dans Romains 8, 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous avons développé déjà cette assertion. Toutefois, l'homme n'en est pas moins libre. Il y a peut-être quelque chose là qui nous échappe un peu, qui a échappé toujours à beaucoup de commentateurs. Comment prédestiner, il semble donc que les choses sont faites à l'avance, fixées à l'avance. Il y a donc une sorte d'arbitraire divin. Et alors je ne vais pas pouvoir aller dans un autre sens, mais la direction de ma vie, elle est déjà fixée. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas d'arbitraire. Alors, dire comment prédestiner sans que cela donne lieu à un arbitraire de la part de Dieu. Eh bien, alors laissez-moi vous dire ceci sans entrer dans de longues considérations, quoique nous en avons déjà parlé, mais laissez-moi vous dire que, attention, notre petit raisonnement ne nous permet pas d'aller bien loin, il ne nous permet pas de sonder les raisons et les manières d'opérer de Dieu, bien sûr. Mais quand nous considérons à travers l'Écriture les manières d'opérer de Dieu, nous nous trouvons assez souvent devant quelque chose de paradoxal. C'est le cas ici, hein, c'est un peu paradoxal qu'il y ait prédestination. Nous, il nous semble alors que tout est fixé à l'avance, n'est-ce pas? Il y a bien des choses qui sont fixées à l'avance, oui, c'est vrai. La ressemblance à Christ, n'est-ce pas? Il y a prédestination, alors il nous semble que c'est un grand arbitraire, alors que l'homme doit être libre et que c'est selon sa foi qu'il lui sera donné, que la grâce de Dieu lui sera accordée. C'est un peu paradoxal, mais je vous dis, le paradoxe est fréquent, il est même constant dans les Écritures. Si on n'a pas déjà réfléchi à ça, si on n'a pas cette conviction que le paradoxe est dans l'Écriture, non pas la contradiction, mais le paradoxe, eh bien, on se trouvera évidemment en difficulté souvent. Pour caractériser le paradoxe, je dirais ceci, par exemple, pour vivre, il faut mourir. N'est-ce pas un paradoxe, ça, déjà? Pour vivre, il faut mourir. Pour être fort, il faut être faible. Pour être riche, il faut être pauvre. Vous voyez, n'est-ce pas, que bien des choses sont sous le signe du paradoxe. Et pourquoi cela? Eh bien, c'est parce que quand le Seigneur Jésus est entré dans ce monde et qu'il était encore un tout petit enfant, le vieux Siméon l'a pris dans ses bras. Le vieux Siméon, vous savez, ce juif pieux, oh, qu'il est admirable, cet homme, tiens, en voilà un fidèle aussi, celui-là. Eh bien, il a eu le petit enfant dans ses bras, et puis il a prophétisé sur lui, et il a dit notamment, cet enfant sera un signe qui provoquera la contradiction, ou si vous voulez, dans bien des cas, le paradoxe. Quand on examine les enseignements du Seigneur Jésus face aux pharisiens, on s'aperçoit aussi du paradoxe. J'essaie un petit peu, vous voyez, d'élever un peu, si vous voulez, nos considérations, notre méditation. Il faut pas toujours rester aux choses élémentaires, il faut aller un petit peu plus haut. Eh bien, il y a dans les enseignements du Seigneur Jésus, il y a paradoxe. Et nous le voyons très bien, par exemple, quand le Seigneur Jésus fait dire aux pharisiens quelque chose. Il leur présente une parabole, et puis il leur dit, bon, alors, quelle est la conclusion à laquelle on arrive ? Alors, les pharisiens tous ensemble, eh bien, oui, cet homme à qui tu as, par exemple, affermi ton vignoble, et puis qui a battu tes serviteurs, qui a même tué ton fils, que tu lui as envoyé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le mettre à mort, celui-là. Et puis le Seigneur Jésus les laisse comprendre que celui qui a fait ça, c'est eux. Ce sont eux qui ont fait ce travail-là. Dans bien des enseignements, donc, les pharisiens prononcent leur propre condamnation. Le Seigneur Jésus les amène à prononcer, à voir leur propre condamnation. Alors, Abraham, il nous est dit que son cœur était fidèle devant Dieu. Son cœur a été fidèle devant toi, dit Néhémie. Fidèle devant toi, ça veut dire essentiellement fidèle envers toi, ou à ton égard. La fidélité est avant tout une attache à la personne de Dieu. La fidélité, donc, c'est essentiellement et d'abord cela. Quand nous nous convertissons, la foi nous unit au Seigneur. Et c'est ainsi que l'amour germe. Dieu nous a aimés le premier, lui c'était déjà fait. Mais il fallait que nous arrivions à l'amour. Et nous y arrivons parce que la foi, elle jaillit, elle s'élance sur la personne de Jésus et elle établit une union. Et quand cette union s'établit, n'est-ce pas, eh bien c'est l'amour qui apparaît. C'est extraordinaire. La foi va donc permet l'éclosion de l'amour. Et donc, le cœur d'Abraham fut fidèle envers Dieu. Et le cœur d'Abraham s'était donc attaché à Dieu. Et tu fis alliance avec lui. Dieu fait toujours entrer l'homme fidèle dans une alliance. C'est-à-dire, dans un contrat, il fait toujours un contrat. Il a fait un contrat avec nous, avec chacun de nous. Attention, un contrat. Il faut être fidèle à l'alliance aussi. On est fidèle au Seigneur, il faut être fidèle à l'alliance. Il a fait un contrat, il a traité alliance dans la base, sur la base évidemment de la grande alliance, c'est-à-dire la nouvelle alliance fondée sur le sang de Jésus. Il a fait donc un traité avec nous. Il nous a dit, bon, je te fais entrer dans l'alliance de la grâce. Je te fais entrer dans cette alliance, mais attention, dans le cadre de cette alliance, toi, tu vas avoir à manifester ta foi, à manifester ton amour, à manifester ta vie nouvelle, la vie nouvelle. Tu vas avoir à les manifester dans certaines circonstances, dans des circonstances qui vont être particulières à ton cas. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il nous fait donc entrer dans une alliance. Et nous prenons engagement. Il nous est dit que, même si au point de vue traduction ce n'est pas tout à fait correct, mais enfin peu importe, que nous prenons l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous nous engageons avec Dieu dans une alliance, dans un traité, dans une entente réciproque, une entente réciproque. Et alors, si nous sommes fidèles à cette alliance, l'alliance, la grande alliance générale, comme je le rappelle, fondée sur le sang de Jésus pour toute l'Église, mais l'alliance particulière, nous avons chacun notre petite alliance dans le cadre de la grande avec le Seigneur. Et si nous sommes fidèles dans cette alliance, il s'ensuit des bénédictions de tous ordres. Des bénédictions de tous ordres. Et vous savez, qu'est-ce qu'une chose spirituelle? Qu'est-ce qu'une chose spirituelle? Eh bien, c'est quelque chose que le Seigneur demande, attend de nous. Il attend une chose. Si nous la faisons, cette chose, elle est spirituelle. Si, par exemple, le Seigneur me demande de prier, bon, je prierai. Vous direz, oh, mais ça, c'est la prière, c'est tout à fait spirituel. Bien, c'est bien. Mais si le Seigneur me demande, par exemple, dans l'ordre courant des choses, demande une action, il demande par exemple de déplacer cet objet et de le mettre là, n'est-ce pas? Bon, je le fais, j'ai déplacé cet objet, je l'ai mis là parce que Dieu me l'a dit, c'est matériel ce que j'ai fait là. Eh bien, c'est spirituel. C'est spirituel parce que Dieu me l'a dit et je l'ai fait, n'est-ce pas? Vous voyez, par conséquent, ne séparons pas nécessairement ce qui est d'ordre matériel de ce qui est spirituel. Le Seigneur Jésus n'est-il pas mort sur la croix? N'a-t-il pas donné son corps? Comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, il a donné son corps. Ça, c'était matériel, peut-être. Et c'est la source de toutes les bénédictions spirituelles. Hein? Vous voyez, par conséquent, attention de ne pas dissocier systématiquement le spirituel du matériel ou du physique. Lui seul, je l'ai appelé, nous dit Ésaïe cette fois-ci. Ésaïe nous dit que, de la part de Dieu, lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Seul, en effet, lors, dans Ésaïe 51, verset 2, lors de son appel, Abraham est devenu, par suite du miracle de la naissance d'Isaac, le père d'une multitude. Par suite de la naissance d'Isaac, le père d'une multitude. Parce que le Seigneur ne voulait pas multiplier Abraham, lui donner la postérité convenue par Ismaël. Quand Dieu demande à Abraham d'aller offrir son fils en holocauste, il lui dit bien, ton fils Isaac, celui que tu aimes, ton unique, et c'était le deuxième, ton unique, le Seigneur ne voyait que celui-là. Donc c'est par ce miracle de la naissance, miracle parce que Isaac est né alors qu'Abraham avait 100 ans et son épouse Sarai était très âgée aussi, il n'était plus en âge d'avoir des enfants et pourtant ils ont eu ce fils. Donc c'est un miracle et c'est ainsi que Abraham est devenu le père d'une multitude, ce que signifie son nom Abraham. Dieu ne désirait pas en appeler un autre que lui, ou d'autres que lui. En aurait-il d'ailleurs trouvé un autre? Est-ce qu'à ce moment-là, le Seigneur aurait trouvé un autre homme ayant les dispositions de cœur qu'avait Abraham? Le chapitre 51 d'Ésaïe, résume tout ce qui va provenir de la fidélité d'Abraham. Ah, c'est que la fidélité produit, nous l'avons dit tout à l'heure, des bénédictions, mais aussi elle contribue au développement, au déroulement du dessein de Dieu, et qui sait aujourd'hui si, non pas seulement une communauté, une église tout entière, mais des membres de l'église ne sont pas précisément par leur fidélité ceux que Dieu attend là à l'œuvre pour les faire participer à l'avancement du règne du Seigneur, c'est-à-dire au développement de son dessein. Voyons Ésaïe 51. Chapitre 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerse les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Je ne veux pas aller plus loin, mais tout ce chapitre 51 résume tout ce qui va découler de la fidélité d'Abraham. Alors, essayons de préciser ce qui va découler de la fidélité d'Abraham. Premièrement, la multiplication du peuple. La multiplication du peuple de Dieu, premièrement. Deuxièmement, la loi qui sera annoncée pour être la lumière des peuples. La loi, il sera énoncé. Troisièmement, le salut fondé sur la justice, qui va sûrement paraître, parce que Dieu a trouvé cet homme, et cet homme est fidèle, va manifester sa fidélité. Alors le salut fondé sur la justice va paraître. Quatrièmement, le jugement de la terre entière, la fin de son histoire. Les hommes périront comme des mouches. La fin de son histoire, mais la promesse de l'éternité. Mon salut s'étendra d'âge en âge. Ma justice durera éternellement. Et enfin, cinquièmement, la justice de Dieu, fondement du salut, ben oui, c'est ce que je viens de dire, s'étendra d'âge en âge. Voilà, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qui nous sont présenté par le chapitre 51 d'Ésaïe, toutes ces choses-là découlent de la fidélité. Si Abraham n'avait pas été l'homme fidèle, mais Dieu, nous l'avons vu, n'est-ce pas, l'a regardé avant. Dieu l'a choisi. J'ai choisi Abraham. Je l'ai choisi. Et nous n'avons pas été choisis. Mais si, que nous avons été choisis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, a dit le Seigneur Jésus. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai appelé. Alors, oh, chers amis, il faut que nous prenions du ressort dans la fidélité. Oh oui, il faut que nous allions plus loin, chers amis. Il ne faut pas que nous restions là où nous en sommes maintenant. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Ainsi, la fidélité d'Abraham apportera ouverture aux phases successives du plan de Dieu jusqu'au total accomplissement, au point que nous, eh bien, nous sommes élus en Isaac, le fils de la promesse. Nous sommes élus, c'est ce que Paul dit, nous sommes élus en Isaac. Que ne fera pas en son temps la fidélité du Fils de Dieu? Ah, et plus seulement Abraham, mais le Fils de... Abraham, c'était pour que vint au moment, à l'époque fixée, celui qui sauverait les hommes de leur péché, de la mort. Alors, que ne fera pas la fidélité du Fils de Dieu qui, elle, va réaliser le plan de Dieu. Abraham, lui, il a ouvert. Il a été une ouverture. Sa fidélité a été une ouverture pour le plan de Dieu. Mais le Fils de Dieu, Jésus, lui, est le réalisateur. Le réalisateur. C'est normal, puisqu'il a été aussi celui qui a créé toutes choses. C'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Mais savons-nous, nous, ce que Dieu veut encore faire aujourd'hui, à la suite de notre fidélité, s'il la trouve? Vous savez, vous, ce que Dieu veut faire? Il vous a prévenu? Non. Vous savez, Abraham... Dieu ne lui a pas dit, quand il lui a demandé de quitter Ur en Chaldée pour venir dans le pays de Canaan, il lui a pas dit, puis alors après ça, voilà ce qui va se produire, encore après, etc., etc. Non, il lui a dit, quitte ta famille, ton pays, et puis viens là. Voilà, c'est tout, pour l'instant c'est tout. On n'a pas besoin d'en savoir plus, hein. Sois fidèle déjà, là. Et alors, ensuite, les autres aspects, les autres plans du dessein de Dieu se sont présentés à leur temps. Eh bien, nous, aujourd'hui, c'est ce que je veux dire, n'est-ce pas, nous ne savons pas encore aujourd'hui ce que Dieu veut faire de notre fidélité à chacun de nous ou à une Église tout entière. S'il y a une Église qui veut véritablement... dans l'union manifester une grande fidélité, quelle force! Et certainement que Dieu a des desseins pour les accrocher à cette fidélité, pour les faire dépendre de cette fidélité. Faut que nous pensions à ça. Il n'y a pas simplement que la considération personnelle de notre petite vie, de notre vie chrétienne, ça importe naturellement. Mais il n'y a pas que cela dans les vues de Dieu. D'ailleurs, attention, ne parlons pas trop de nous-mêmes. Ne parlons pas de nous-mêmes. Nous parlons trop, beaucoup trop de nous. Nous sommes cédons cette démangeaison de parler de nous. Moi, il m'est arrivé, nous disons quelquefois des bonnes choses, bien sûr. Nous parlons des bénédictions, des grâces. Mais ne parlons pas trop de nous. Voyons plus loin. Voyons notre fidélité d'aujourd'hui et celle qui va préparer celle de demain. Et ce que Dieu va pouvoir faire dépendre de cette fidélité-là. Moi, je suis absolument persuadé de cela. Je suis persuadé, pas parce que c'est mon idée à moi, mais parce que, à la lecture des Écritures, j'en ai recueilli la conviction que Dieu va faire dépendre des choses à venir. Il y a encore des choses à venir de notre fidélité, quand ce ne serait, c'est important, la conquête de ce monde pour le Christ. la conquête de ce monde. Alors, nous allons maintenant, puisque nous sommes à Abraham, lire dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, le chapitre de la foi. Nous allons lire du verset 8 au verset 12. 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Cette postérité si grande, là, est-ce que c'est le peuple d'Israël ? Aujourd'hui, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il représente dans le monde ? Je vais mettre grosso modo, 14 millions. Les 10 tribus, on ne les connaît plus, on ne sait pas où elles sont. Dieu le sait, mais nous ne savons pas où elles sont. Mais enfin, ce qu'on appelle les Juifs, il y en a, mettons, 14 millions dans le monde, c'est tout. C'est pas énorme, ça. Pas énorme. Mais la postérité, c'est la postérité promise, celle de la promesse. C'est la postérité qui va être prise en charge, par assumée par le Christ. L'Épître aux Hébreux nous parle bien de cette postérité-là, la postérité d'Abraham. C'est pas à des anges qu'il... En effet, je lis au chapitre 2, verset 5, « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Ce n'est pas à des anges, mais c'est à la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham qui est assumée, prise en compte par le Seigneur. La foi de cet homme, Abraham, n'était pas un mouvement isolé, momentané. Il lui fallut la manifester d'une façon constante, continue. Et comment ? Eh bien, il lui a fallu obéir constamment. Il a désobéi, hein, certainement. Il a pris une mauvaise initiative. Ah oui. Il a environ, on décompte environ, je dis non, c'est à peu près exact, une dizaine d'épreuves. Il a traversé 10 épreuves. Et dans 4 de ces 10 épreuves, je crois que c'est cela, 4, il a succombé. Il a mal manœuvré. Pas quand il est allé en Égypte, c'était pas tout à fait ce qu'il aurait dû faire. Tout à coup, la famine se manifeste là en Canaan, et pourtant c'est le Seigneur qui lui a dit de venir en Canaan avec tous ses troupeaux et tout son personnel, tout ce monde qu'il avait. Alors il vient là, et puis tout à coup, famine, il n'y a plus de nourriture. Alors que faire? On apprend qu'en Égypte il y a de l'abondance. Alors on va se diriger vers l'Égypte. Alors là, c'était un défaut, vous voyez. Même les hommes de grande foi, même le père des croyants, lui aussi a eu ses moments de déficience. C'était une erreur. Qu'aurait-il dû faire? Eh bien, il aurait dû dire ceci. Écoute, Seigneur, je suis venu là sur ton ordre. je t'ai obéi, je suis là. Tu ne m'as pas donné d'ordre complémentaire, tu ne m'as pas dit ce qu'il fallait faire maintenant, je suis là, j'attends, et puis voici qu'il n'y a plus rien à manger. Eh bien, j'attends, si nous devons mourir là sur place, nous mourrons, mais je ne bougerai pas tant que tu ne m'auras pas dit ce qu'il faut que je fasse ou il faut que j'aille. Et savez-vous ce qui serait arrivé? La famine aurait cessé. La famine aurait cessé tout de suite. Ou Dieu aurait peut-être indiqué un déplacement, mais plus tôt, n'est-ce pas, la famine aurait cessé. Tandis que là, écoutant sa petite logique, n'est-ce pas, écoutant, essayant de régler les choses, la difficulté, par lui-même, alors Abraham dit, bon, allez en route, nous tous, nous allons nous diriger sur l'Égypte. Puis en cours de route, il se dit, oh là là, les Égyptiens, j'ai connaissance que c'est pas des gens très recommandables, hein. Et Sarai avait, paraît-il, un beau visage encore. Ils sont capables de me prendre ma femme et pour cela de me tuer moi. Je tiens à ma santé quand même. Bon, alors il dit à Sarai, écoute, toi, tu vas dire que tu es ma sœur. Comme ça, non seulement ils vont pas me tuer, mais ils vont même m'honorer. C'était quand même vilain. C'était pas beau, n'est-ce pas? C'était pas beau. Vous voyez, le Seigneur ne nous demande pas d'admirer Abraham, un de ses personnages, n'est-ce pas, 100%. Là où on va vraiment le voir dans tout l'éclat de sa foi, c'est quand il partira vers le mont Morija avec le bois, avec le feu, avec Isaac, le grand couteau pour l'immolation, n'est-ce pas, et qu'il dressera son autel là, et qu'il aura déjà le couteau levé sur la gorge de son fils bien-aimé, de son unique, comme a dit le Seigneur, prêt à baisser ce couteau. Le Seigneur l'arrête là. Je vois que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors maintenant, les promesses que je t'ai faites vont s'accomplir. Et s'il n'y avait pas eu ça, les promesses, comment se serait-elle accomplie? Il fallait la fidélité. Vous voyez, n'est-ce pas? Malgré les déficiences en cours de route, il fallait cette grande manifestation de fidélité. Donc Abraham vécut en Canaan comme étranger, alors qu'il aurait pu se fixer, mais sa vision, nous dit l'Épître aux Hébreux, s'y opposait, car il attendait la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce que nous attendons, nous, cette cité? Attendons-nous, nous aussi, cette cité, comme étrangers et voyageurs sur la terre? Il ne faut pas trop s'attacher à notre petit confort, à notre gentille petite maison, à nos meubles assez agréables, à tout ça, à toute cette technologie, frigidaire et autre chose, eau chaude, eau froide et tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, de confortable à la maison. Attention, attention, nous sommes étrangers. Il faut posséder ces choses comme ne les possédant pas. Voilà ce que nous dit Paul. Puisque nous les avons, bon, on va pas vivre quand même sur la paille, mais il faut user de ces choses sans s'attacher à elles, et vraiment attendre nous aussi la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La foi conduit à l'obéissance, et si elle prolonge ses effets, elle devient la fidélité. La fidélité, c'est la foi, une foi réelle, constante, qui prolonge ses effets. Elle s'appelle alors la fidélité. Que le Seigneur nous permette de la manifester pour sa gloire. Amen.